C'est très mauvaise. Mais en gros, il a compris que son ex-femme venait d'échapper à la mort, que la mort rôdait peut-être encore autour d'elle, qu'elle naviguait dans les eaux du coma, qu'elle en sortirait sans doute, mais pas indemne. On ne savait rien, on ne pouvait pas la rapatrier dans son état. Mais il s'était aperçu que ça ne l'intéressait pas. Il faudrait pourtant s'y intéresser. Il avait aimé cette femme. Comme il avait pu, oui, mais il l'avait aimée, comme elle ne l'avait jamais aimée en retour. Et de ça, il était resté si amer que le ressentiment qu'il avait fini par nourrir envers elle avait corrodé entièrement cet amour, pour le laisser vide, en miettes. Le ressentiment et l'amertume étaient toujours là, et la fatigue, les années de lutte, la fatigue encore, le divorce et la guerre qu'il avait impliquée. Bon, voilà, il essaie de se faire croire qu'il vient ici un peu pour elle, mais il sait que c'est faux. Il sait qu'au fond, il n'est là que pour Samuel, pour le ramener avec lui, et peu importe que Sibyl crève dans un hôpital au fin fond du Kirghizistan ou d'ailleurs. Quand il finit par trouver le campement, il s'étonne de ce qu'il voit. Tous ces gens, comme eux sans doute le sont de voir débarquer un 4x4 noir aux vitres teintées, et ce type qui sort de la voiture, habillé en jean et chemise blanche, les manches retroussées, Ray-Ban, surgissant comme l'invité surprise. Mais on ne le regarde pas vraiment non plus. Il n'est pas l'événement du jour. L'événement, c'est le mariage de la fille de Toctogul. Celui-ci a fait les choses en grand. Il a emprunté beaucoup d'argent pour organiser une fête somptueuse, comme on les aime à travers tout le pays, et même dans toute l'Asie centrale. Des fêtes immenses, dont on met des années à se remettre. Mais le sacrifice vaut bien d'être fait. Lui qui laisse une sensation d'orgueil et de fierté, pour que chacun ait l'occasion de se remémorer des souvenirs dont on sera heureux des années, qui nourriront les soirées dans la yourte, les récits qu'on fera aux petits-enfants quand ils seront nés, et dont les amis pourront être envieux, espérant faire mieux, plus grand, plus beau, mais en se disant que personne n'est plus impressionnant que le vieux Toctogul, avec ses dents en or et son regard pénétrant, son calme impérial et légèrement arrogant lorsqu'il reste debout pendant des heures, à l'entrée de sa yourte, entre la prière du matin et les ordres aux femmes et aux enfants. Samuel avait dit à son père qu'il ne serait pas à Osh. On lui avait proposé de l'accueillir dans un campement de nomades, et il avait accepté. C'est là qu'on pourrait se retrouver. Et donc son père arrive. Il sort de sa voiture de location et, alors qu'il s'attend à trouver un plateau désert avec quelques yourtes et des chevaux, des moutons et des enfants qui jouent, alors qu'il s'attend à tomber de plein pied dans la carte postale ou dans les photos qu'il a pu voir dans le guide du routard ou sur Internet, c'est bien sur une image de cet ordre qu'il tombe, mais pas celle à laquelle il s'attendait. Au lieu des quelques yourtes et des chevaux, des trois moutons et des poignées de gosses, des femmes trayant les juments pour préparer le koumis, c'est une foule dense, compacte, des robes bariolées, de la musique, un orchestre avec un type assis qui joue d'une guitare à trois cordes, un autre encore avec un archet, deux autres avec des flûtes droites, et un autre avec une sorte de tambour. Il approche. Son fils doit être là, parmi tous ces gens. Il se demande ce qu'il regarde, ce qui les attire, parce que, oui, tous les regards convergent vers un point qu'il ne voit pas encore très bien. Ça a l'air loin. Et la foule empêche de voir, d'entendre. On parle très fort, on rit. La musique aussi l'empêche de saisir. Et puis soudain, il entend les ruades, les galops, les cris. Il doit se faufiler à travers la foule pour se faire une place. Derrière la barrière que forment les gens, une vingtaine de chevaux et de cavaliers courent, se bousculent. Benoît approche. Il essaie de passer au premier rang pour mieux voir de quoi il s'agit. Il comprend vite. Il a lu quelque chose là-dessus. Ce jeu où les cavaliers s'écharpent pour récupérer le corps décapité d'une chèvre ou d'un bouc. Qu'il va s'agir pour le cavalier qui réussira à s'en emparer d'aller déposer dans un cercle après avoir passé entre des poteaux. Les autres tentant bien sûr de l'en empêcher. Benoît avait lu que ce jeu pouvait être violent, et, en effet, il l'est. Les cavaliers sont des hommes jeunes. Ils se jettent les uns sur les autres avec une frénésie et une rage qui le surprend. Il aperçoit la carcasse du bouc. Une carcasse aux longs poils noirs, qu'il est facile d'attraper à pleine main, mais qui passe de main en main, qu'on s'arrache, se livrant à tous les coups possibles, criant, frappant. Et les chevaux ruent et hennissent, agglutinés, formant une sorte de nuée où chacun semble reconnaître son équipe. Deux équipes. Et pourtant, à l'intérieur de chacune, tout le monde semble ignorer les autres. On tape, on frappe, le public